des programmes de VOA Afrique. On se retrouve.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Mali, les violations graves commises contre des enfants ont connu une augmentation considérable en 3 ans, affirme dans un rapport du 10 décembre 2020 le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, faisant part de sa préoccupation en particulier pour les cas de recrutement d'enfants et d'attaques contre des écoles. Le chef de l'ONU appelle toutes les parties au conflit au Mali à libérer les enfants présents dans leur rang et demande aux autorités de prévoir une formation à la protection de l'enfance destinée aux forces de défense et de sécurité. Il relève aussi la tendance inquiétante que représente la forte augmentation du nombre d'attaques contre des écoles qui a plus que triplé en 3 ans. Aux Philippines, le Congrès devrait prochainement voter une loi relevant à 16 ans la majorité sexuelle. Selon le code pénal de 1930, l'âge est fixé à 12 ans. Le nouveau texte devrait aider à protéger les enfants dans un pays qui est un haut lieu des violences pédophiles, conduisant à 500 grossesses d'adolescentes par jour. Aux Philippines, un viol est commis toutes les heures, indique la sénatrice Risa Ontiveros. 7 victimes sur 10 sont des enfants et la grande majorité des filles. Le projet de loi qui prévoit des peines de prison à vie devrait être approuvé par le Sénat dans les prochains mois. Selon les défenseurs des droits des filles, il faut aussi changer la mentalité sexiste de nombreux magistrats qui ont l'habitude de culpabiliser les victimes. Et il est nécessaire d'accélérer les délais d'audience des affaires de viol. Le Parlement libanais a adopté le 21 décembre 2020 une loi qui criminalise le harcèlement sexuel sur le lieu de travail avec des amendes et des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison. Les députés ont aussi amendé une loi portant sur les violences domestiques pour y ajouter la pénalisation de la violence économique et psychologique. La législation existe depuis 2014, mais la société civile réclamait son durcissement. Toutefois, l'amendement ne criminalise pas le viol conjugal comme réclamé par les ONG. L'application ou non de la législation sera le vrai test pour l'engagement du pays sur la protection des femmes et des filles, a estimé Aya Majzoub, experte pour le Liban de Human Rights Watch.
Parole de femme.
En République démocratique du Congo, les femmes entrepreneurs organisent la foire Kitunga au mois de décembre afin de promouvoir les produits fabriqués par la main-d'œuvre locale. La foire se tient dans la capitale où plusieurs produits sont exposés et vendus. Valdo Simon Yamba s'y est rendu pour nous la faire découvrir.
La promotion de la production locale est le principal objectif poursuivi par les organisateurs de cette foire qui se tient à Kinshasa, à la place des évolués, dans la commune de la Gombe. Betty Moulanga, présidente de l'AFECO, l'association des femmes entrepreneurs du Congo, est la coordinatrice de cette activité.
L'objectif de la foire, c'est la promotion de la production locale. Donc le but, c'est de présenter les produits fabriqués par nous-mêmes. Et deuxièmement, c'est pérenniser le projet.
Les problèmes liés à la production étant quasi résolus, la commercialisation par contre reste un gros souci, explique Betty Moulanga.
Au-delà des soucis, des petits problèmes qu'on a dans la transformation, la production, l'emballage, la valorisation de nos produits et tout, on a un très grand souci de commercialisation. Donc on peut beau produire, mais vendre est un souci.
Avec la présence de la pandémie à Covid-19, la commercialisation se complique davantage. Ndialo Majoceline expose les vêtements en pagne pour adultes et enfants.
C'est très timide, c'est vrai que les gens se plaignent à cause du Covid, mais on ne va pas laisser Covid gâcher notre joie de vivre, en fait. Avec le peu que Dieu nous donne, on peut se faire plaisir. Ici, nous avons les articles, il y a les articles de 2000, 3000 francs, en fait. C'est pas cher, on peut venir se faire plaisir avec le peu qu'on a.
Après 10 jours, l'effectif des exposants est passé de 28 à 20, une baisse d'effectifs qui influence logiquement le rythme des ventes. Ces derniers demeurent un vrai problème. Alors que l'espace coûte cher, c'est plein Tabitha Kapinga, qui expose les jus fabriqués à base des fruits locaux.
Avant de jus fait à base de bissap, de baobab, fait à base de gingembre et curcuma. Nous avons aussi les kea, le cœur d'Amérique. On paye très cher l'espace, on ne vend pas beaucoup.
Voilà qui explique les besoins d'un site référence à la fois pour exposer et vendre les produits locaux, estime Betty Moulanga, coordonnatrice de la foire Kitunga.
Alors qu'ici, on a des artisans, on a des transformateurs de tout genre, on a des poudres, on a des savons, on a des habits, on a des chaussures, on a une variété de nos produits. Donc notre souci, c'est avoir un endroit dans un lieu commercial comme ça, comme une foire, où les gens savent qu'à tout moment, ils peuvent passer, acheter, poser les questions, proposer et puis commander leurs produits.
Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
La capitale sénégalaise a accueilli la 3e édition du Festival international de courts-métrages du 7 au 12 décembre. Dakar Court a reçu 213 candidatures en provenance d'Afrique et de la diaspora d'Europe, d'Amérique et de l'océan Indien. Le grand prix du jury a été décerné à Guakoulou du Malien Moïse Togo. Le comité de sélection avait retenu 12 courts-métrages de fiction, dont celui de Maïmouna Ndiaye pour son film Majigi. Elle s'est confiée à Yakuba Ouedraogo.
Majigi, entendez résilience, est l'histoire d'une femme socle de son foyer, comme dans la plupart des couples, dit la réalisatrice du film Maïmouna Ndiaye.
Dis, tu as eu Auguste au téléphone?
Je lui ai laissé un message.
Mais écoute, maintenant que votre union est officielle, et en attendant que ton mari trouve une maison, il peut bien venir habiter avec nous ici. Hein.
Majigi, c'est un terme en djoula. Imajigi, ça veut dire attrape ton cœur, en traduction littérale. C'est ce que ça veut dire, c'est une forme de résilience en fait. Le film traite de l'histoire d'une femme résiliente, on va dire. J'ai voulu montrer en fait la force et la capacité des femmes de porter des choses, de porter la vie, de porter un foyer. Dans un foyer, la femme, c'est le pilier du foyer. Tout peut mal partir d'elle et tout peut bien se passer aussi grâce à elle.
La pandémie de nouveau coronavirus a durement frappé l'économie mondiale en général, celle de l'industrie cinématographique en particulier. Salles de ciné fermées, rassemblements interdits. Le monde des artistes en a beaucoup souffert, mais cela a été un tremplin pour Maïmouna dans l'écriture de son film.
J'ai écrit ce film et je me suis dit, je ne vais pas le laisser dans les tiroirs. On l'a tourné avec très très peu de moyens, en équipe réduite, et on a réussi à le faire tout en respectant les mesures barrières. On a fait ce film avec une jeune production dirigée par Oumar Dagnon, Wati Film. Tout ce qui arrive au film en ce moment, on ne s'y attendait absolument pas, donc c'est un bonheur.
Avant d'ajouter cette corde d'auteur-réalisatrice à son arc, Maïmouna Ndiaye s'est faite connaître en tant que comédienne de théâtre et de cinéma. Elle a tourné dans plusieurs films au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, où elle est beaucoup connue à travers la série à succès Superflic. Dans sa nouvelle aventure dans la réalisation, Maïmouna a sorti Pauline, l'amour en action, entre autres, et a aussi réalisé des documentaires dont Warba Saga, Balan, Recreatal, Amando, Tranche de vie.
La jeune femme qui vient de sortir de mon bureau s'est présentée à nous en disant qu'elle était sa compagne. Mais malheureusement, elle n'est ni du même groupe sanguin que lui, ni son épouse légale.
Sa nouvelle trouvaille Madjigi a été retenue à la 3e édition du Festival de courts-métrages de Dakar. Ce film, comme 11 autres, ont été sélectionnés parmi 213 candidatures en provenance d'Afrique et de la diaspora d'Europe, d'Amérique et de l'océan Indien.
La meilleure récompense pour moi, c'est que le public voit le film. Donc je l'ai fait dans cette optique-là. J'ai fait juste le film parce que j'avais envie d'exprimer quelque chose. Je l'ai exprimé et maintenant je veux le partager.
Faire voir justement ces films de jeunes réalisateurs, c'est l'objectif visé par le directeur du Festival des courts-métrages de Dakar, Moly Khan, qui a offert cette plateforme aux amoureux de la réalisation comme Maïmouna Ndiaye.
L'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelka, détenue en Iran depuis un an et demi, s'est vue décerner le 15 décembre 2020 le français Irène Joliot-Curie, qui récompense les œuvres des femmes en sciences et technologies. Spécialiste du schisme et de l'Iran post-révolutionnaire à Sciences Po Paris, Adelka a été arrêtée le 5 juin 2019 à Téhéran, comme son compagnon Roland Marchal, spécialiste de l'Afrique, qui a été libérée en mars 2020 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Mais la chercheuse a été condamnée le 16 mai à 5 ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Des accusations montées de toutes pièces selon son comité de soutien. Longtemps détenue à la prison d'Evin à Téhéran, elle est depuis le 3 octobre en résidence surveillée.
Si jeunesse pouvait.
La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités dans le monde. Aux États-Unis, le taux de décès dû au coronavirus chez les Navajos est presque deux fois plus élevé que la moyenne nationale, selon les données du département de la santé Navajo. Partons à la rencontre d'un groupe de jeunes femmes de la nation Navajo au Nouveau-Mexique qui aident leurs voisins dans le besoin. Dans le paysage désertique de Two Gray Hills, au Nouveau-Mexique, une camionnette apporte de la nourriture et du bois de chauffe à une famille Navajo de 7 personnes, dont le père est décédé du coronavirus quelques heures plus tôt. Les secouristes déposent les provisions devant la maison. Kim Smith dirige un groupe de femmes Navajo bénévoles qui fournissent un soutien à un nombre croissant de familles mises en quarantaine après le décès d'un parent.
Nous intervenons pour les membres de la communauté à un moment crucial.
Thank you. Merci.
Aussi grande que la Virginie occidentale, la réserve n'a que 13 petites épiceries et près de 50% des Navajos sont au chômage. Tira Blackwater, une bénévole, est étudiante à l'université Stanford.
Il est vraiment important d'apporter cette nourriture, en particulier pour nos aînés qui sont plus à risque et pourraient être immunodéprimés.
La pandémie a exacerbé les inégalités dans les soins de santé, le logement et les services de base entre la nation Navajo et les États du Nouveau-Mexique, de l'Utah et de l'Arizona. Amber Crotty est déléguée du Conseil de la nation Navajo dans la région de Shiprock.
La pandémie fait juste la lumière sur les disparités qui existent déjà, ainsi que sur le manque de financement fédéral pour répondre aux besoins en matière de santé.
Cora So, jeune femme Navajo, tout juste diplômée de la faculté de droit de l'Arizona, a perdu ses grands-parents en mai dernier.
Ils ont commencé à se sentir mal et fin avril, ils étaient vraiment malades et ils ont été à l'hôpital. Ma mère m'a envoyé un texto me disant que mon grand-père était décédé. Puis l'après-midi, ma grand-mère est également décédée. Ils sont morts à quelques heures d'intervalle. La dernière fois que je leur ai parlé, ils avaient hâte de venir célébrer mon diplôme.
Chris Bischer, ancien président de l'autorité du logement en Navarro, pense que la pandémie a révélé le sous-financement chronique de la nation Navarro.
Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés ne sont pas nouveaux. Disparités en matière de santé, d'emploi, d'éducation, disparités économiques, tous sont liés au financement du gouvernement américain.
En attendant, les jeunes femmes navarro comme Kim Smith, Tyra Blackwater et Corasso continuent de faire tout leur possible pour soulager la souffrance des membres de leur communauté.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Togo, la 6e édition de la Foire des cadeaux s'est tenue à Lomé du 18 au 20 décembre 2020. Notre correspondante Kayi Lawson s'est rendue sur le site de cet événement où elle a notamment rencontré Deladem Sodatonou, l'initiatrice de la foire.
À l'entrée du site de la Foire aux cadeaux, une décoration annonce un événement en couleur. Il s'agit d'un photocall fait de fleurs naturelles agrémenté d'une balançoire. Une fois la grande porte de la salle où se tient l'événement poussé, de jolis tableaux d'art vous émerveillent à l'instar du portrait grandeur nature de l'international togolais de football Emmanuel Adebaochei peint avec un stylo noir. Produits vestimentaires, cosmétiques, alimentaires, des jouets, des fleurs, de la maroquinerie, des meubles, des bouquins, toutes les idées cadeaux regroupées en un seul lieu. Telle est la vision de Deladem Sodatonou, directrice de Anaïs Concept en initiant la foire aux cadeaux.
Anaïs est un conseil en cadeaux. Et donc à la veille des fêtes, les clients nous appellent pour nous demander quoi offrir. Donc on essaie à nous promener de site en site pour rassembler en fait les cadeaux que les clients désirent. Donc on se dit pourquoi ne pas mettre tous ces gens-là sur un même lieu et le client se déplace, lui-même il vient, il fait ses choix, il fait emballer et puis on peut le livrer aussi.
La pandémie de Covid-19 n'a pas eu raison de la foire aux cadeaux comme c'est le cas de la foire internationale de Lomé. Il est impératif d'offrir des cadeaux aux proches même si le contexte n'est pas aussi festif.
Malgré la Covid, on peut quand même fêter Noël. Il y a beaucoup de choses à peu près à tous les prix, donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir offrir des cadeaux. Mais on peut quand même se faire plaisir et offrir des belles choses.
On m'a dit que c'est la pandémie qui fait que cette année, on n'a pas eu vraiment de foire comme ça. Donc, on a profité de l'occasion. Comme il y a diverses choses, ça nous aide à faire aussi le choix parce qu'il y a plusieurs articles. Mais on fait en fonction de notre budget, quoi. On pense toujours aux proches, de petites choses qui leur feront plaisir pour qu'eux aussi sentent qu'on a pensé à eux.
Pour cette édition, Anaïs Concept a limité le nombre de participants. Juste une 50aine d'exposants étaient présents avec des articles aussi divers que variés. Un stand assez particulier attire notre attention, celui de Mirev Library, qui propose des cadeaux utiles que sont les livres. Carole Ahiankou est ambassadrice de Mirev Library.
Offrir un livre comme cadeau, c'est très important. En fait, la lecture est très précieuse pour corriger nos langages. Et pour nous inscrire aussi. À cette foire, nous proposons des livres comme cadeaux pour enfants, pour adultes, pour toutes sortes de personnes.
Après avoir parcouru le stand, quelques visiteurs nous dévoilent leurs achats.
J'ai acheté une robette pour ma fille, un tricot pour mon mari.
J'ai acheté un sac, des accessoires pour bureau.
Je me suis acheté des t-shirts pour des petites sorties entre amis en ces temps de fête.
J'ai pris une chemise pour mon père, une tasse et un porte-monnaie aussi.
On a acheté des bijoux, des perles de hanche, des chevillères, des boucles d'oreilles et des tapettes aussi.
J'ai acheté des poupées africaines pour ma fille, un masseur pour moi-même et mon mari éventuellement s'il est gentil.
tous ces cadeaux se retrouveront au pied du sapin pour une Noël sous couvre-feu au Togo. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Cameroun, les activités des travailleurs du secteur informel, majoritairement des femmes et des jeunes, ont été lourdement perturbées par la pandémie de Covid-19 dès le mois de mars 2020. Notre correspondant Emmanuel Juntap a tendu son micro à certains d'entre eux à Yaoundé avant les fêtes de fin d'année.
Au rez-de-chaussée d'un immeuble au quartier Tinga à Yaoundé, les jeunes femmes s'affairent pour le début d'une mini-foire d'exposition. Elles travaillent pour une agence de voyage, aujourd'hui fermée pour cause de Covid-19.
C'est vrai que tous les stands ne sont pas encore ouverts parce que c'est l'ouverture. Mais d'ici l'après-midi quand même.
Les ventes privées qu'elles organisent sont en prélude à la fête de Noël.
C'est comment, voisin? Tu n'as même pas regardé les choses.
Agnès Yolande, Mignem Bassok, est la communicatrice de cette mini-foire.
Nous exposons plusieurs articles à coût réduit. Vous savez, l'année a été tellement compliquée, donc pour nous, c'est une façon de contribuer à redonner du sourire aux gens en leur faisant beaucoup, beaucoup de petits cadeaux.
Les prix des vêtements pour enfants varient ici entre 500 francs CFA, soit moins d'un dollar américain, et 7000 francs CFA, un peu plus de 13 dollars. À un jet de pierre de là, Solange, la quarantaine, travaille dans un pressing. Elle a un enfant en charge, mais la fête de Noël s'annonce aussi difficile pour sa petite famille.
C'est encore dur pour le moment. Il n'y a pas l'argent dehors. Le corona a tout pris. Les gens de l'Europe ne viennent plus. C'est eux qui déposent beaucoup les habits en décembre, les mariages, tout ça.
Mais il y a le salaire quand même, non?
Oui, mais alors, le salaire avec les aérés.
65% des ménages enquêtés par l'Institut national de la statistique et vivant de l'économie informelle ont dès avril 2020 connu une baisse de revenus suite aux premières mesures de couvre-feu et de distanciation sociale. Paul est un agent de sécurité dans une banque à Yaoundé. Ses dépenses pour Noël ne vont pas excéder 30 000 francs CFA, soit 56
000. On n'a pas d'abord les gros salaires, ce qui fait que, bon, en fait, à notre petit niveau, juste la nourriture, pas de jouets pour le moment. Donc, on ne peut pas dire que la fête de Noël est toujours la même qu'avant.
L'enquête sur les effets socio-économiques du coronavirus conduite par l'Institut national de la statistique entre avril et mai 2020, montre que les pertes des revenus financiers sont de 26,4 milliards de francs CFA pour les ménages ruraux et près de 58,2 milliards pour les ménages urbains. Une situation révoltante pour Isidore, un employé du secteur privé qui s'apprête à fêter Noël 2020 dans la morosité.
Est-ce que nos gouvernants ont la main sur le cœur pour pouvoir apporter à leurs concitoyens un minimum d'empathie? C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est comme si on était délaissé. Donc, je ne peux pas offrir des cadeaux aux enfants quand le toit s'inquiète de ma famille vit de jour en jour. Donc, il y a des nécessités qui sont prioritaires.
Le secteur informel emploie près de 90% de la population active, dont 92% des jeunes âgés de 15 à 34 ans. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.